On remercie Will et son groupe de louanges. Des beaux chants, n'est-ce pas? Qui nous ravivent le cœur, nous préparent pour le ciel. Je vais être en avant quand je suis rendu au ciel. Proche de l'agneau, en train de l'adorer. Que Dieu soit loué. Quelle grâce, quelle joie, quelle bénédiction d'être un enfant de Dieu. Alors ce matin, je vous demande de prendre vos Bibles et tourner encore à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Et ce matin, notre texte, c'est les versets 7 à 10. Et la semaine dernière, juste pour un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous avons commencé notre étude de ce un merveilleux chapitre en considérant la réponse de l'apôtre Paul à la question posée au verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Question posée justement à cause de ce que nous trouvons dans les chapitres 9 et 10, le rejet d'Israël de l'Évangile, de la justification par la foi. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que Dieu ferait la même chose à Israël? Et ça, c'est la question qu'on trouve au verset premier. Et nous avons vu que la réponse était non, non, non. À cause de, premièrement, ce que Dieu est. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu des alliances, le Dieu qui garde ses promesses. Alors Dieu est fidèle à ce qu'il dit, il n'est pas menteur. Et quand il fait des promesses à Israël, il va un jour accomplir toutes ses promesses. Nous avons vu aussi que c'était non à ce que le peuple est, c'est l'Israël de Dieu. Dieu l'appelle son peuple. Il a dit aussi que j'ai connu ce peuple d'avance. Ça veut dire qu'il a décidé d'avoir une relation d'intimité avec ce peuple. Et troisièmement, nous avons vu aussi, il y avait des preuves dans ce chapitre. Tout d'abord, Paul, l'Israélite, il a dit, écoute, si Dieu avait rejeté son peuple, moi, je ne serais pas en train de vous écrire. Alors nous avons le rédacteur, Paul, c'est un Israélite pure laine. Nous avons aussi vu qu'il y avait un reste. Malgré l'incrédulité d'Israël, il y avait un groupe d'individus fidèles. Comme dans le temps d'Élie, il y avait 7000 hommes que Dieu s'est réservé. Et dans le temps de Paul aussi, il y avait des juifs pieux, fidèles, qui étaient sauvés par grâce, par l'élection de la grâce et qui avaient accepté l'Évangile. Et ce matin, nous allons continuer notre étude en regardant ces preuves. On a vu le A, le B. Et ce matin, nous voulons voir aussi à cause de la révélation. Et nous voulons voir trois réactions d'Israël face à la justice de Dieu. La justice de Dieu est la clé pour nous aider à comprendre ce texte qui n'est pas facile. Parce que de ce texte découle une doctrine qui est controversée. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne l'intelligence pour nous aider à bien comprendre. Alors nous allons lire Romains 11, les versets 7 à 10. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Texte dur, texte très dur, extrêmement dur, mais ça c'est notre texte pour ce matin. Et ça, c'est ce qui arrive quand on fait une étude systématique. On ne peut pas les bypasser. On arrive, puis là, c'est là. Alors la question que nous nous posons ce matin, quelle était la réaction, comme je vous ai dit dans ce texte, la toile de fond, c'est la justice de Dieu. Et la question que nous voulons nous poser ce matin, quelle était la réaction d'Israël face à la justice de Dieu? Alors tout d'abord, dans ce texte, nous avons la justice recherchée. La justice recherchée. Si vous gardez votre texte encore au verset 7, le texte dit ceci, « Crois donc que ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. » Et en passant, le « crois donc », c'est une conclusion que Paul va amener maintenant, des trois arguments pour démontrer que Dieu n'avait pas rejeté son peuple, mais qu'il s'agissait, comme nous avons déjà vu, d'une mise de côté qui est partielle. Et Paul va montrer à ses lecteurs dans les textes qui suivent que Dieu avait déjà, révélé. Dieu n'est pas pris par surprise. Il avait déjà révélé dans l'Ancien Testament que ces choses arriveront. Alors, comprenons tout d'abord le sens du mot Israël dans le texte. Il s'agit de Israël national, ethnique, de qui Paul dit dans Romains 9:4. Est-ce qu'on peut reculer, Yannick? Je pense qu'on a sauté. OK. Paul dit dans Romains 9:4, c'est une nation à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Il y avait beaucoup de privilèges. Et qu'est-ce que Paul va dire justement à propos de ce peuple, cette nation? C'est un peuple à la recherche. Dans le texte original, le mot pour chercher, dans le grec, veut dire chercher sérieusement, chercher avec soin, implorer, réclamer. Et le temps du verbe qui est le présent nous démontre que c'était une recherche constante. C'était une nation qui était à la recherche, un peuple qui était à la recherche. Si vous tournez juste ce moment au Romains 12, juste un chapitre avant, au verset 2, que dit Paul à propos de ce peuple-là? Il va dire ceci, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Romains 10, 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu. » Et un texte aussi parallèle dans Actes 22, 3, pas besoin d'y tourner. Paul, il va dire la même chose. Quand il est devant le peuple juif, puis il parle de son style de vie avant sa conversion, il va leur dire ceci, « J'étais instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Alors ça, c'était le peuple de Dieu. Juif, un peuple zélé pour Dieu, un peuple qui observait les rituels, les cérémonies, les lois, les commandements. C'était un phénomène national, ce peuple-là, zélé pour Dieu. Et que cherchait-il dans leur zèle pour Dieu? 9:31 va nous dire ceci, juste avant 10, 9:31. Israël qui cherchait une loi de justice. Vous le voyez? Dans leur zèle pour Dieu, ils cherchaient à être vus comme étant juste devant Dieu, à être acceptés par Dieu. Et comment est-ce qu'ils ont fait cela? Mais comme je dis, ils essayaient scrupuleusement de garder les commandements de Dieu, d'observer les rituels, les cérémonies. Ils cherchaient, selon 9:32, la justice de Dieu comme provenant des œuvres. Ça, c'était Israël. Ils voulaient être justifiés par Dieu, ils voulaient être acceptés par Dieu, puis ils ont dit, on va y aller, on va y arriver, on va faire des œuvres, un paquet d'œuvres, pour être acceptés, justifiés par Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Chapitre 10, au verset 3, nous dit ceci, « Israël ne connaissait pas la justice de Dieu. » Quelle tristesse. Israël n'avait pas appris que ce n'était pas par l'observation de la loi qui pouvait les sauver, mais Christ. Romains 10, 4 nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Israël n'avait pas appris que la justice de Dieu vient seulement par la foi. La foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et c'est tellement merveilleux. Dieu est capable de déclarer le pécheur repentant juste en prenant les péchés du pécheur, en les transférant au compte de Jésus-Christ. Et il prend la justice de Jésus-Christ, il va le transférer au compte du pécheur. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais les Juifs ne connaissaient pas cela. Et malgré le fait qu'ils avaient la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chapitre 9, au verset 3b, nous dit ceci, « Cherchant à 10-3 plutôt, cherchant à établir leur propre justice. » Cherchant à établir leur propre justice. La référence est Romains 10, m'excuse, 10-3b. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va établir notre propre justice. Et ça, c'est la vérité. Les gens qui n'ont pas la justice de Dieu, qui ne connaissent pas la justice de Dieu, inévitablement, ils vont fabriquer, trouver, essayer de justement faire leur propre justice devant Dieu. Et nous avons des exemples de cela dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Vous allez vous rappeler de Luc 18, pas besoin de les tourner, mais nous avons le publicain et le pharisien, ces deux hommes qui sont montés au temple pour prier. Et là, vous avez l'exemple classique d'un homme qui cherchait à établir sa propre justice. Il va prier, le texte nous dit, en lui-même, rempli de lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il y a une difficulté à sortir le mot. Rempli de sa propre justice, il étale maintenant devant Dieu sa propre justice. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bref, Dieu, je suis bon garçon. Tu dois m'accepter. Vous connaissez la suite. Publicain, reconnaissant son injustice devant Dieu, s'humilie devant Dieu, frappe sa poitrine. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et le commentaire de Jésus sur ce texte est tellement révélateur. Je vous le dis, celui-ci, le publicain, est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Vous voyez? Un qui s'est établi sa propre justice, il est passé complètement à côté de la traque. L'autre qui s'est vu injuste, il a reçu la justice de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit. Celui ou celle qui cherche à établir sa propre justice devant Dieu passera complètement à côté. Et même aujourd'hui en Israël, si vous visitez le mur des Lamentations, vous allez voir des Juifs zélés, ces Juifs hassidiques qu'on appelle, qui avec des boudins là, puis de gros chapeaux, et qui sont là, puis en train de réciter des prières, puis en train de se prosterner, puis c'est dans quel but? C'est justement d'être juste devant Dieu, d'être accepté par Dieu. Et ce matin, nous avons entendu aussi du musulman pieux. Ceux qui, 5 fois par jour, vont se prosterner en tournant vers la Mecque et dire le prière, et qui vont aussi observer justement toutes les fêtes de Ramadan et Tabaski, ainsi de suite. Et même chez nous ici, Québec, les catholiques pieux pratiquants, baptisés, confirmés, qui assistaient régulièrement à la messe, donner sa dîme, disait le chapelet, je te salue Marie, pleine de grâce, et ainsi de suite, maintes et maintes fois, pourquoi? Pour établir leur propre justice. Qu'est-ce que Romains 10, 3 nous dit ceci à propos d'Israël? Et bien sûr aussi à toutes ces autres personnes, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et ça, c'est la ligne de fond. Pour nous ce matin, la justice de Dieu vient par la foi, de la foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ seul. Et là, le texte est là, Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendre témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et ça, c'est la façon d'être juste devant Dieu, d'être accepté par Dieu. Et si on cherche la justice de n'importe quelle autre manière, comme Israël l'a cherché, vous ne l'obtiendrez jamais. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Non seulement Paul va nous donner cette révélation, la réaction d'Israël face à la justice de Dieu, à propos de ce que Israël, la justice recherchée, mais aussi dans le même texte, Romains chapitre 11, au verset 7, il va dire ceci, la justice a été reçue. On a la justice recherchée, mais aussi dans Romains 11, verset 7, B, nous avons la justice reçue. Avancer, Yannick. Alors, il va nous dire ceci, mais les élus l'ont obtenu. Quel contraste, n'est-ce pas? Quel contraste. Et avant d'aller plus loin, il faut établir qui sont ces élus ici. Dans le contexte, ça pourrait dire le reste, parce qu'il part d'une reste en Israël, selon l'élection de la grâce. Et ce reste-là, ces individus, en contraste avec la nation en général, qui était un peuple zélé et qui cherchait la justice de Dieu comme provenant des œuvres, il y avait un reste en Israël, le reste fidèle qui avait accepté l'Évangile. Et pour avoir dit ceci, des élus, ils l'ont obtenu. Eux, ils ne cherchaient pas à se justifier devant Dieu en essayant de garder la loi. Mais plutôt, l'Évangile leur avait convaincu de leur état de pécheur et ils s'étaient repentis en croyant en Jésus-Christ. Alors, ces élus-là, ce reste-là, avaient obtenu la justice de Dieu. Ça pourrait aussi inclure les païens. Parce qu'en Romains 9, 30, Paul y parle des païens qui avaient aussi reçu la justification par la foi et qui, ce qui tellement frappant, il va dire ceci, les païens, ils ne cherchaient même pas la justice de Dieu. Dieu va dire dans Romains 10, 20, « J'étais trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et vous savez, comme le texte nous dit dans les épîtres de Paul, on voit dans les villes comme Corinthe, des villes comme Éphèse, comment ces gens-là, loin de chercher la justice de Dieu, il y avait un style de vie qui était complètement dépravé et débauché. Souvent, les villes entières étaient adonnées à l'idolâtrie, à la débauche. Et les gens ne recherchaient pas justement à être acceptés par Dieu, mais cherchaient plutôt à satisfaire leurs passions infâmes et charnelles. Et Dieu a dit, ces gens-là, quand l'Évangile a été prêché, ils ont reçu l'Évangile, ils ont obtenu la justice de Dieu. Alors, qu'importe que ce soit le reste en Israël ou bien que ce soit les païens, la grâce de Dieu sur ce salut pour tous les hommes a été manifestée. Et ces élus-là avaient obtenu la justice de Dieu. Bien sûr, cela a passé par le processus normal de la conversion. Quand Paul a dit qu'il l'avait obtenu, mais bien sûr, ça passe par le processus normal de la conversion. Et pour obtenir la justice de Dieu, dans un premier temps, il faut se reconnaître injuste devant Dieu. Ça, c'est la ligne de fond, de base. Il y a la conviction du péché, premièrement. Je vous donne quelques textes que vous connaissez déjà, Ecclésiastes 7, 20. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, c'est le verdict de Dieu. Esaïe 64, 5 nous dit ceci, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Romains 3, 20 nous dit ceci, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et parce que le non-croyant est injuste, qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle à la repentance. Deuxième étape, la conviction du péché. Il y a aussi maintenant la repentance. Et Jésus a prêché la repentance au début de son ministère. Vous vous rappelez dans Marc 1,15, quand il a commencé son ministère, il allait dans la Galilée, le texte nous dit ceci, prêchant l'évangile de Dieu, il disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et quand il est monté au ciel, il a donné une commission à ses disciples. Il leur a dit ceci, Luc 24, 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. Quand Pierre va livrer son sermon, rempli de la puissance et de l'esprit, nous dit qu'il y avait des personnes là qui étaient convaincues de leur péché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre va dire ceci, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors il y a la conviction, il y a aussi la repentance. Et après cela vient la foi. La foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Romains 3, 25 nous dit ceci, c'est lui. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas les cérémonies. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Et si ce mot-là vous a dérouté, propitiatoire, cela veut dire simplement que Jésus, en mourant sur la croix, il a apaisé la colère de Dieu. Il rend Dieu propice maintenant à notre égard. Parce que Romains 1, 18 nous dit ceci, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des hommes. Toute impiété, toute injustice des hommes. Alors, Jésus va apaiser la colère parce qu'il prend sur lui la colère de Dieu. Dieu maintenant, en retour, peut donner sa justice aux pécheurs repentant. On appelle ça la doctrine de la substitution. Ésaïe 53, 5, des textes que nous avons vus ce matin à la table du Seigneur. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et quel beau texte dans 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Conviction, repentance, la réponse à tout cela maintenant, comme nous avons dit, c'est la foi dans cette œuvre. Quel beau texte dans Romains 4, 5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 5, 1, un autre beau texte. Étant donc maintenant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La justice de Dieu, être juste devant Dieu, être accepté par Dieu, provient non pas par les œuvres, mais par la foi en Christ. Et tout cela, même la foi de croire en Jésus-Christ, nous vient de Dieu par pure grâce. On a lu le texte ce matin dans Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Même la foi pour croire dans cette œuvre est un don de la grâce de Dieu. Et Romains 3, 23, 24 nous dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quelle bénédiction ce matin d'être justifié. Justifié par la foi, justifié par le sang, justifié par grâce, pure grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alléluia. Amen. Troisièmement, la justice recherchée par Israël, cette nation zélée, qui n'ont pas trouvé. La justice obtenu par les élus. Et maintenant, tristement, dans notre texte ce matin, nous avons la justice rejetée. La justice rejetée. Regardez votre texte encore, si vous voulez, au verset 7 encore, 7c. Il va dire que les élus l'ont obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, les yeux pour ne point voir, etc., etc. Ça, c'est un texte qui est difficile. Parce que de ce texte découle une doctrine difficile, controversée. Mais avant de regarder, j'aimerais poser un fond qui va nous aider à mieux l'interpréter. Dans un premier temps, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Qu'importe ce que le texte dit ce matin, dans un premier temps, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Jacques 1, 13 nous dit ceci, « Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Ça c'est clair et net. Habacuc 1, 13 nous dit ceci, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Deuxièmement, Dieu n'est pas injuste. Au contraire, il est complètement, totalement, entièrement, parfaitement, mettez ce que vous voulez, juste dans tous ses agissements. Je vous donne quelques textes. Deutéronome 32, 4. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ésaïe 45, 21 nous dit ceci, « Dieu va dire lui-même, « Je suis le seul Dieu juste qui sauve. » Et Abraham avait bien compris justement cette caractéristique de Dieu quand il va plaider avec Dieu justement pour la vie de Sodome, où est-ce qu'il y avait son neveu Lot avec sa famille qui était là. Et c'est tellement intéressant ce qu'il va dire au verset de Genèse 18, 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. » C'est impossible. Loin de toi de cette manière. Loin de toi. On vous dirait en bon québécois, ça se peut pas. Et après, il va dire ceci, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas, quoi, la justice ?» Abraham avait compris. Dieu ne pouvait pas détruire le juste avec le méchant. Impossible! Si Dieu, Abraham l'avait compris ce matin, est-ce que nous l'avons compris? Avons saisi que Dieu est juste dans tous ses agissements? Alors, même si on ne peut pas tout comprendre à propos de Dieu, acceptons au moins par la foi ce que la parole de Dieu dit. De plus que nous sommes des pauvres mortels, limités, sans intelligence, dépravés, atteints du péché, qui sommes-nous pour aller devant le Dieu de l'univers, Créateur, trois fois saint, et établir un standard de justice? Quelle folie! Et troisièmement, la troisième chose qu'il faut se rappeler comme base, toile de fond de ce texte, Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Désolé ce matin, là, mais il n'y a pas de compte à me rendre, à vous rendre, l'autre. Même pas à ces anges qui est paru dit qu'ils sont puissants, ces anges. Il n'y a pas de compte à rendre à ces anges. Et encore à nous, des faibles créatures, que la parole de Dieu nous dit, nous sommes des vermisseaux. C'est pas très luisant, hein? L'herbe, encore moins, une vapeur qui apparaît puis ensuite qui disparaît. Et pire encore, la poussière qui retourne dans la poussière. J'ai trouvé un beau texte dans Ésaïe 43, 13 et ça m'a beaucoup parlé. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Vous savez, la réponse, c'est personne. Alors ce matin, ne mettons pas dur au banc d'accusés. Comme on dit en anglais, « Let God be God ». Laissez Dieu faire sa job de Dieu. Et nous, prenons notre place devant lui dans l'humilité et dans une crainte respectueuse. Alors ça, c'est la toile de fond. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il n'est pas injuste. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Ceci dit, maintenant, regardons notre texte. Verset 7b, les élus l'ont obtenu, la justice, comme on l'a vu, qui vient de la foi, tandis que les autres ont été endurcis. Les autres en contraste avec les élus. Il y a un contraste ici. Les autres en contraste avec le reste. Il y a le reste en Israël, sauvé par l'élection de la grâce. Il y a Israël, cette nation zélée pour Dieu, mais sans intelligence. Cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Dieu a dit, ceux-là ont été endurcis. Dans le texte original, ce mot endurcir veut dire couvrir d'un peau épaisse. Si on dit en bon québécois, là, c'est une épée, là. Mais là, ici, c'est un cœur qui est dans ce sens-là, qui est engourdi, un cœur qui est dur. Et même perdre le pouvoir de la compréhension. Ça, c'est le sens du mot. Et ce mot est utilisé presque exclusivement dans la parole en association avec le cœur. Dans quelques textes, dans Psaume 95, 7 et 8, le psalmiste, il va faire une déclaration. Il va dire ceci, « Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » On voit la relation, l'endurcissement avec le cœur. Et nous avons tous aussi le récit classique avec Pharaon, qui face au prodige que Dieu opérait par la main de Moïse, on dit dans Exode 8, 28, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Mais de qui Dieu va dire, aussi en parlant à Moïse, Exode 4, 21, « Vois tous les prodiges que je te mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi Dieu, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. » Alors, comment est-ce qu'on va expliquer cela? Ça, c'est la difficulté. Tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler que le cœur humain est naturellement endurci et en rébellion contre Dieu à cause du péché. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On vient au monde avec un cœur. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est le cœur humain. Naturellement dur, endurci à cause du péché. Romains 3, 11 nous dit ceci, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse de bien, même pas un seul. » Ça, c'est le cœur humain. Et ça, c'est le verdict de Dieu sur le cœur humain, méchant, tortueux, perverti, endurci et en rébellion contre Dieu. Et si vous voulez savoir jusqu'où un cœur irrégénéré, dur, endurci, palé. Lisez les atrocités commises par Hitler et les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs. 6 millions ont été exterminés. 6 millions. Dans les camps de concentration. On appelle ça l'Holocauste juif. Vous serez estomaqué. Peut-être vous allez vous demander, est-ce possible qu'un cœur humain peut faire cela? Et la réponse est oui. Quand le cœur est endurci, c'est effrayant Ça fait peur jusqu'où le corps peut aller. Des choses terribles. Sans la grâce de Dieu, c'est incroyable. Et ça, c'est le corps humain, naturellement, dur, endurci, en rébellion. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant, comme le texte nous dit, avec Pharaon, Dieu a dit, moi, j'endurcirai son cœur. Alors, comme je vous donnais le toile de fond, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Ça ne veut pas dire que Dieu a provoqué activement dans le cœur de Pharaon de l'incrédulité face à tout ce que Moïse faisait. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais tout ce que Dieu a fait, il a simplement retiré toutes les influences divines qui agissent normalement pour limiter le péché, et il a permis au cœur méchant, tortueux de Pharaon à suivre son cours. Et qu'est-ce qu'un cœur endurci fait? Mais il va continuer à s'endurcir. C'est comme un désert. S'il n'y a pas d'eau qui passe, ça reste stérile, aride, sec. Et finalement, Pharaon est allé jusqu'au jugement de Dieu. Et nous avons cela, un frappant exemple de cela dans Romains, au premier chapitre, pas besoin d'y tourner, mais dans Romains 1, 24, on a ces hommes-là qui ont justement ce témoignage de Dieu qui est là. Quand on les considère dans ses ouvrages, la puissance de Dieu, sa divinité se révèle comme à l'œil nu. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos de ces personnes qui refusent justement ce témoignage? Dieu les a livrés à l'impureté. Vas-y donc. Ils ont livré, ils ont retiré ces grâces divines. Dans Romains 1, 26, Dieu les a livrés les passions infâmes, selon les convoitises de leur cœur. Romains 1, 28, Dieu les a livrés à leur sens ou réprouvés. Alors le cœur est déjà là, méchant, Dieu retient ses grâces, puis, oh, let's go. Alors cela nous amène devant un paradoxe. Ces individus qui étaient endurcis, les autres qui ont été endurcis, la question maintenant qui est controversée, Dieu peut-il les tenir responsables de leurs actions? Ça, c'est la difficulté. Et la réponse, c'est oui. Parce que l'élection de la grâce n'annule pas la responsabilité de l'homme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Paul n'était pas capable d'expliquer. Je vais vous montrer dans un instant. Je ne suis pas capable d'expliquer ça. Paul n'était pas capable. Puis personne n'est capable d'expliquer ça. Puis essayez pas non plus. Vous allez vous faire sauter les neurones. Ça, c'est une question extrêmement difficile. C'est un paradoxe qui est dans le texte qui est là. Et je vais vous montrer juste quelques illustrations de cela. Je n'ai pas de réponse, mais je vous montre comment est-ce que la difficulté est là. Dans Romains 9, 18, il y a un texte qui est extrêmement difficile. Dieu va dire ceci. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Contraste. Et là, vous avez deux hommes. Vous avez Moïse et vous avez Pharaon. Tous les deux pécheurs. Vous êtes d'accord? Moïse même, c'est un assassin. Il a tué un Égyptien et caché dans le sable. Tous les deux sont pécheurs. Tous les deux méritent absolument rien sauf la mort et l'enfer. Ça, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Moïse, il obtient la miséricorde de Dieu. Qui ne méritait pas. Et Pharaon obtient le jugement de Dieu, mais qui méritait? Moïse, par grâce, obtient la miséricorde de Dieu. Pharaon obtient le jugement de Dieu. Si on dit, Moïse n'aurait pas dû recevoir la miséricorde de Dieu, mais là, on prive Dieu d'être gracieux. Si on dit que Pharaon n'aurait pas dû recevoir le jugement de Dieu, on prive Dieu d'être juste. Alors, ligne de fond, personne n'est traité injustement. Et ça, c'est la paradoxe, ça, c'est la difficulté, mais c'est là. Parce qu'en commençant, on ne mérite absolument rien sauf le jugement de Dieu. Mais Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui veut, il retient ses grâces. Et comme je dis au début, ça c'est la toile de fond, il n'y a pas de compte à rendre à personne. Et ça nous amène maintenant à Romains 9, 19. Vous êtes là, regardez le texte qui dit ceci. Ça, c'est le controverse difficile dans ce texte. Vous me direz encore, pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Et comme je dis, essayez pas de répondre à cette question. Paul, il répond même pas. C'est tout ce qu'il fait. Il va retourner la question. « Hey, toi là, c'est qui toi pour contester avec Dieu? » Paul, il est poli. En bon québécois, là, on aurait dit « la ferme ». Pas de réponse. Pas de réponse. Qui es-tu pour contester avec Dieu, pour dire ce qu'il peut faire? Alors, si rapidement on revient à ce texte ici, à nos moutons, Romains 11, 8, juste pour terminer. Pour ceux qui ont été endurcis, j'aimerais vous montrer quelque chose ici qui est extraordinaire dans ce texte, qui est vraiment une... qui nous démontre quand même le cœur de Dieu. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, les yeux pour ne point voir, ça c'est le verset 8, les oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et je veux vous dire ce que même dans le jugement de Dieu, il y a un élément de compassion pour ceux qui résistent et qui rejettent justement Dieu. Parce qu'il y a une vérité dans ce texte. Plus qu'on est exposé à la vérité, plus qu'on est responsable et plus le jugement va être sévère. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles dans les villes de Bethsaida puis Chorazin, puis il a dit, le monde, là, il ne s'est même pas repenti. Puis là, il va aller, malheur à vous autres. Dans le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement pour vous autres. Parce que si j'avais fait mes miracles dans ces villes-là, ils seraient repentis. Et là, on voit justement. Et Jésus, c'est tellement touchant quand il est devant la foule, il va leur parler en parabole. Et là, les disciples sont estomaqués, ils ont dit, écoute, c'est quoi l'affaire? Pourquoi tu leur parles en parabole? T'sais, il me semble que ce serait dans la vérité, pour qu'ils puissent croire et comprendre. Mais ils sont devant les gens qui ont rejeté l'Évangile, qui ont rejeté Dieu, qui ont le cœur endurci. Et qu'est-ce que Jésus dit? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et là, il va citer un texte en Ésaïe 6, 9, 10 qui est parallèle à notre texte. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, etc., etc. Jésus savait qu'il y avait un jugement terrible qui attendait ces gens qui avaient rejeté l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle en parabole. Parce que s'ils avaient donné la vérité, puis ils avaient continué à rejeter, le jugement a été encore plus terrible. Et dans une mesure de compassion pour ces gens tellement ancrés dans leur rébellion, tellement endurcis, Jésus a caché par une parabole. Quelle compassion. Je termine avec ceci au verset 9, juste brièvement. Il va finir avec une citation de Psaume 69. C'est David qui dit ceci, « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. » Et là, on voit maintenant ce qui est arrivé aux Juifs. Une table, c'est un endroit où est-ce qu'il fait bon y être. On s'assoit, il y a de la bonne bouffe, on célèbre, il y a des fêtes, des festivités, on se régale. Surtout au Canada, il y a l'abondance sur la table. Et pour le juif pieux, ceux qui cherchaient une loi de justice, mais la table pour eux, c'était la loi. Et c'était sa nourriture, ils ont mangé de cette loi-là. Chercher d'être juste devant Dieu, accepté par Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Leur même loi est devenue pour eux un piège. Le juif pensait par la loi être accepté par Dieu. David dit non, cette même loi ici va te juger. Et va te condamner, ça va être une rétribution. Au jour du jugement, tu vas être récompensé, la même loi va te juger, puis tu vas être jugé selon tes œuvres. Et c'est la tristesse dans ce texte, la nation d'Israël, qui par le fait qu'elle possédait l'adoption, la gloire, les alliances, aurait dû être une lumière pour les nations. À l'époque de Paul, ses yeux sont obscurcis, leur dos courbé, sous le joug de la loi. Et encore aujourd'hui, c'est triste. Israël, dans son pays, apostat, aveugle. Même pour les pieux religieux, parmi eux, ils attendent encore Yeshua, le Messie. Mais nous savons qu'il est venu. Et quelle belle parole dans Luc 2, 29. Pas besoin de tourner, mais là, nous avons un homme âgé, Siméon, hein, qui voit le Seigneur Jésus, il prend dans ses bras, il va dire ceci, « Seigneur, tu laisses maintenant ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant les nations. Lumière pour les nations. Et gloire d'Israël, mon peuple. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, le mise de côté est juste partiel. Partiel, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir que cette mise de côté n'est pas permanente. Quelques applications rapides. Soyons reconnaissants, alors, pour ces élus, les restes en Israël qui nous ont transmis fidèlement la parole de Dieu. À cause des fidèles restes en Israël, nous avons notre Bible. Des hommes comme Moïse, des hommes comme Josué, David, les psaumes, nous avons Paul, Pierre, Jacques, Jean. Même dans les persécutions, les intenses, il y avait un reste fidèle en Israël. Et grâce à eux, nous avons la parole de Dieu que nous aimons ce matin. Prions pour ce peuple aussi qui est tellement privilégié, tellement de bonnes choses, mais tellement aveuglé. Prions pour la paix de Jérusalem. Un jour, le Seigneur va venir régner à Jérusalem. Et j'ai apporté une revue ici, ça s'appelle Israel My Glory, si vous lisez l'anglais, là, il y a de bons articles là-dedans. Il y a un faux aussi sur le site web foi.org, Friends of Israel. Vous pouvez justement vous instruire sur Israël. Vous voyez mettre certains ce matin, continuons nos efforts d'évangélisation malgré la doctrine de l'élection. L'élection, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est l'évangélisation. Allons vers les inconvertis. Parlez-le du jugement qui s'en vient. Laissez pas la doctrine de l'élection vous troubler. Dieu, il sait ce qu'il fait avec ça. Mais nous, notre job, là, c'est de dire aux pécheurs, repentez-vous, il y a un jugement qui s'en vient, sauvez-vous de cette génération perverse, crissez justement le remède, l'amour de Dieu est là, croyez et soyez sauvés. Et laissez le Saint-Esprit faire le reste. Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais écoute, s'ils sont sauvés d'avance, pourquoi évangéliser? Je vous donne une citation de Spurgeon qui a dit ceci, si chaque élu porté sous son veston, une chemise ayant une rayure dans le dos pour démontrer qu'il avait été choisi. Je cesserai de prêcher l'évangile et je me promènerai en soulevant les queues de pie pour voir qui était sauvé. Non, prêchons l'évangile. Pour nous qui sommes sauvés, alors, je vous laisse avec cela. Probablement le Saint-Esprit vous a parlé ce matin. Vous avez des choses à corriger dans votre vie. Dieu voulait faire une œuvre de justice dans votre vie. Je ne dirais pas endurcissez pas votre cœur parce que vous êtes sauvés, mais ne résistez pas à la Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre de justice en vous. Et finalement, si vous ne connaissez pas le Christ, soyez pas comme Israël ce matin, cherchant à établir leur propre justice. Le texte nous dit ceci, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et celui qui reçoit Christ comme son sauveur personnel, je peux vous garantir que vous pouvez quitter ce lieu et rentrer chez vous justifié devant Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te bénit. Tellement de richesses dans ta parole. Nous te demandons de prendre alors ces quelques textes, mes faibles mots. Tu nous appliques à nos cœurs avec puissance et que tu fasses une œuvre de justice dans chacun de nos cœurs. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.